La voce di Ivano Saccavalletta. Il papà non è più libero, se sale con noi. Ed è così come? E io non lo sapevo, non lo sa cosa. Che? Se è così. E mi ha allora che sai di Parigi, mi ha studiato di Parigi, mi ha sentito la rendu tutta la vita per fare il libro per ça. Sai di che? Il è devenu clavi. Sa neshama è clave. Alors, il m'a dit qu'un voyage, oui, je vais faire la rencontre, un voyage aussi. Bon, s'il n'y avait pas une autre question en avance, quelqu'un voulait poser une question.
Le peuple est quand même responsable de son histoire. Comment dites-vous qu'il est, comme une collectif.
Il veut dire un collectif. Un collectif. Un clave, oui. Non, parce qu'on sait qu'il y a un peuple qui a changé le monde. Vous avez un plateau à temps particulier. Quand tu poses une question sur ce qu'on vient d'apprendre, tu changes les termes. Pourquoi? Répète les mêmes termes.
Un être collectif ou un individu collectif? Un collectif.
Alors, il y a un clave.
Alors, un clave. À partir du moment où. Je comprends pas comment il n'y a pas de liberté pour un clave.
Ah! Ben c'est de ça qu'on parle. Alors,
il y a une histoire qui lui tombe comme ça, c'est lui qui l'a fait son histoire. Okay.
Un clave ah, il faut que vous découvriez, même si moi quelqu'un est pour ça, la différence entre un individu et un collectif, un clave. Un prade et un clave.
Il y a une identité, mais c'est quoi
lui? Écoutez, est-ce qu'on est. Alors, prenons le cas d'Israël, qui est le cas privilégié parce qu'elle m'a dévoilé grâce à la prophétie qu'on est. Okay. Est-ce que vous avez l'impression. Israël était libre en tant qu'être collectif. Les individus peuvent se perdre, ne pas se perdre, s'améliorer, ne pas se perdre. Les individus. Mais le peuple comme tel, est-ce que vous avez l'impression que son histoire pouvait se passer autrement? Que même si l'exil devait durer, je ne vous donne pas le chiffre exact, mais disons 2000 ans, que finalement il ne devait pas revenir. Aujourd'hui, c'est facile de lire chapitre 30 du Deutéronome, tu reviendras, on est revenu. Hein? Est-ce que vous n'ouvrez pas les yeux sur ce fait qui n'a même pas interprété? Nous vivons d'après une histoire programmée. En tant que clave, l'individu peut avoir l'illusion qu'il est libre d'y aller. Vous avez compris le problème.
Et vous avez pas dit la preuve que l'histoire de ce peuple juif, elle aurait pu, il fallait pas la prendre comme une fatalité, qu'elle aurait pu être différente.
Mais vous croyez que c'est une fatalité, ça? C'est une programmation. Et je parle du clave. Ça veut dire, si les individus avaient suffisamment mérité à l'échelle individuelle et en nombre, alors la programmation se serait aménagée de façon plus heureuse. Okay? Mais c'est cette même histoire que l'on vit, dans le bonheur, de façon heureuse, si vous voulez, si on mérite, de façon malheureuse, si on ne mérite pas, mais c'est la même histoire. Le cœur, pas comment, gastrol, systole, c'est comme ça, quel? Eh bien, c'est ça, galout, geoula. Alors, si on est bécédère, quel? Alors ça se passe aisément, on n'a pas mal au cœur, quel? Le cœur bat, et si on n'est pas bécédère, alors on a des palpitations. Et de la fébrilité.
Et une finale de Chikin travail avec bon, cette idée de l'évolution du clan. J'ai pensé à ce que disait Fernand Saussure sur l'évolution d'une langue. Il dit, si l'individu décide du jour au lendemain de changer une langue, il ne peut pas. Par contre, dans la mesure où la langue est utilisée, elle évolue.
Et elle évolue pas au hasard.
Elle évolue pas au hasard.
Alors, dans cette évolution, à l'échelle individuelle, il y a toutes les aberrations possibles à l'échelle des individus. Tous les argots peuvent être inventés. Mais finalement, ce n'est pas par hasard que c'est ça qui passe dans l'avenir de la langue évoque. Alors, vous comprenez, il faut ouvrir les yeux. Nous sommes programmés, mais dans cette programmation, nous avons une liberté de choix. Mais dans la perspective d'un sursis, à la limite, c'est une illusion. Et il faut savoir, est-ce que je suis dans le temps d'un sursis de liberté, ou est-ce que c'est déjà dépassé pour moi? Il faut savoir où on est. Okay. Non, je vous ai déjà parlé de choses un peu obscures pour vous maintenant. Mais quand on est jeune, alors on est comme si on était sous un certain abri. Okay? On peut faire n'importe quoi, ça s'arrangera un jour. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu d'insouciance. À un certain âge, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'abri et que les programmations fonctionnent. C'est l'accès à la responsabilité morale. Il n'y a pas d'abri. Est-ce que c'est bien ce que je veux dire? Et alors, vous comprenez, la Gemara va expliquer ceci. On mène impersonnel, je vous l'explique un jour. On mène quelqu'un là où il veut aller. On mène quelqu'un là où il veut aller. J'ai compris ce que je veux dire. Qui c'est ce on, je vous parlerai de ça un jour plus tard. Okay. C'est pas si simple si vous disiez c'est Dieu, c'est pas exactement comme ça. Bon. Mais on mène quelqu'un là où il veut aller. Par conséquent, c'est bien là où je veux aller, que je vais. Okay. Comment je vais y aller? Ça, je suis. Alors, il vaut mieux que je choisisse la voie droite. Vous savez, on a une... Enfin, de toutes les façons, je dois aller quelque part. Alors, il vaut mieux pour moi que je choisisse la meilleure manière d'y aller. Okay. Et on a une image dans la dans le village, c'est que il y a que ça m'échappait quelque chose d'à côté, c'est toujours lié. Il y a que deux voies possibles religieuses, okay. Ou bien à travers la moralité, et alors la vie est heureuse. Okay. Ça c'est le postulat de la conscience évolutive. Ça qu'il faut découvrir. Ou bien à travers la moralité, on ira quand même, mais à travers les sourires, à travers les malheurs. Mais c'est cette histoire que nous avons à accomplir. Et alors, de quoi je suis libre? Je suis libre de la manière de l'accomplir. Mais d'être ce que je suis, ça je ne suis pas libre. Si vous avez déjà compris ça, je vous nuance un peu plus. Okay? On vous cite un midrash qui ne vous reste pas mystérieux, mais au fur et à mesure que vous avancez dans la vie spirituelle, vous découvrirez cette évidence, c'est que finalement, j'ai oublié ce que j'étais avant de choisir ce que je suis. Ça, j'ai oublié. Et ça fait partie des règles du jeu. Il faut que j'oublie ce qui s'est passé avant pour que l'option que j'ai à faire et je suis jugé, on est peut-être un veille sur elle. Hein, et malheur. Eh bien, soit juste, parce que si je connais les règles du jeu, alors je joue avec des martingales. Vous savez que c'est une martingale, un risque calculé. Hein, alors c'est normal que j'oublie à la naissance. Mais j'ai oublié. Il y avait quelque chose que j'ai oublié. J'ai oublié. Un jour, je me rappelle. Juste quand je suis plus libre, quand c'est trop tard, quand je ne peux plus changer de dossier, alors je me rappelle de quoi il s'agit. Bon, ça c'est le développement de la destinée un peu plus loin. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est librement que j'ai choisi le rôle que je dois jouer dans l'histoire. Mais ça, j'ai oublié. Alors il y a tout un stade où je dois réaccepter librement d'être celui que j'avais décidé d'être. C'est ça l'adolescence. Et on sort de l'adolescence quand on sait l'accepter. Mais qu'est-ce qu'on a accepté? Pas quelqu'un d'autre, soi-même. Vous savez quoi? Est-ce que c'est clair? Yeah. Et ceux qui n'ont pas encore accédé à cette expérience, sont dans ce que les philosophes appellent la conscience malheureuse. Mais ceux qui ont déjà accédé à cette expérience savent que c'est le bonheur d'être. Vous comprenez le problème? Alors, vous voyez que le problème est très simple. Il s'agit de trouver en soi suffisamment de raisons pour se considérer comme l'être le plus exceptionnel que j'ai jamais vu. C'est un problème de sélection, tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Non, je vous ai dit tout de suite, attention à l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est un manque d'humour. Alors les gens qui manquent d'humour ne peuvent pas s'approcher de la sagesse. Le premier moment de la sagesse, c'est l'humour. D'ailleurs, la langue française se rappelle de ça. Ils appellent ça faire de l'esprit. Manquer d'humour, c'est pas sérieux. On n'est pas remarqué la place importante que joue l'humour dans la vie spirituelle juive. Et il y a très peu de peuples au monde qui sont capables d'humour. Il y en a peut-être deux ou trois que je connais. Les Chinois, les Anglais, mais spécialement les Écossais. Ils n'ont aucune idée à quel point leur humour est profond. Les
Chinois sont
humains. Chinois, énorme. Bon, il y a des peuples qui ont de l'esprit, comme on dit en français. Mais il y en a peut-être d'autres que nous ne connaissons plus, des cultures auxquelles nous n'avons pas contact. En tout cas, il n'y a pas de doute que l'humour anglais, ça existe, l'humour chinois, ça existe, ça, enfin, je parle de ce que je connais, et l'humour juif, qui a une place absolument particulière. Parce qu'il y a une profonde... Un jour, faudrait que je ramène un spécialiste d'histoire pour parler de l'humour. Parce qu'il y a une profondeur de sagesse dans les histoires juives authentiques. Je ne parle pas d'histoire anti-juive, d'histoire juive. Il y a une profondeur de sagesse exceptionnelle. Il y a une grande règle du Talmud. Deux Talmudei Chachamim. qui ne commencent pas par éclater de rire quand ils commencent à étudier, on les met à mort. Parce que c'est une faute de métier. Bon, c'est bon. Là, comment tu occupes de la Torah et tu vas. Dès le début, on éclate de rire. Mais n'en rire pas, j'ai pas un rire grossier. Alors, vous voyez que les gens qui s'occupent de la religion, comme ils disent, avec sérieux comme un pape, c'est pas sérieux. C'est clair, ceux qui ont des mines tristes, là, j'en ai compris. Ceux qui ont la tourette est triste, alors qu'est-ce qui se passe? Et quand on va dans une yeshiva et quand on voit des jeunes dans le bureau et là, ils demandent de quelle Torah ils s'occupent. Vous comprenez le problème? C'est la même. La vraie Torah, ça rend jeune les vieillards.
Comment on peut équilibrer justement
ces. Attendez, alors avant que j'oublie, je vais raconter l'histoire juive. C'est elle qui m'a fait comprendre le mieux ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, parce qu'il faut donner des exemples, qu'il y a une profondeur exceptionnelle. Je ne sais pas, il faudra employer des grands mots, métaphysique, ontologie, cosmique, ce que vous voulez dire. Enfin, une toute petite histoire. Il faisait très froid. Et dans le café, il y avait trois juifs, dans le quartier juif, et trois juifs qui discutaient autour du poêle. Et puis le quatrième qui s'attendait, parce que vous savez qu'il faut être quatre pour être trois mousquetaires, le quatrième qui s'attendait entre et il va vite se réchauffer au fond du poêle et laisse la porte ouverte. Alors il y a Moshe qui dit à Shlomo, Shlomo, ferme la porte, il fait froid dehors. C'est Shlomo qui répond, quand je vais fermer la porte, il fera encore froid dehors. Alors vous voyez, réfléchissez à cette histoire. C'est très 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 profond. Alors, voilà, c'est ça le mot. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite un accent de gravité, de profondeur de gravité qui apparaît dans une blague. Okay. Alors que chez les Anglais, c'est tout à fait autre chose, chez les Chinois, c'est encore autre chose. Mais ils sont capables aussi de faire fonctionner ça. Donc, et alors, chez les Grecs, il n'y avait pas d'humour. Il y a juste ce qui s'appelle l'ironie. Et oui, la différence qu'il y a entre l'humour et l'ironie. L'humour, c'est de la bonté. L'ironie, c'est de la méchanceté. Tu vois la différence, la morale. Et alors, ils appelaient ça le sel attique. L'esprit de sel. Corrosif. Attique, corrosif. Bon, et méfiez-vous des gens qui manient l'ironie. L'ironie, ça dévoile la méchanceté. Vous savez, qui, par exemple, je racontais, j'ai pas eu le temps l'autre fois, il y a un midrash qu'on pourrait intituler La pomme de Guillaume Tell, dans le midrash de l'histoire de Ishmaël et de Esaü, et de Yitzhak, pardon. Le midrash raconte que Ishmaël était déjà plus âgé, et qu'il se prenait pour le premier-né, protégé par Abraham, se moquait de Yitzhak, et quand Yitzhak était seul, enfant, alors il lui mettait une pomme sur la tête et il tirait à l'arc. Exactement l'histoire de Guillaume Tell. C'est dans le village. Je ne sais pas si les Suisses m'ont appris les Hébreux, mais ce que je sais, c'est que les Hébreux n'ont pas appris les Suisses. Et peut-être un midrash pour ça. Et alors, effectivement, ironie. L'ironie, c'est le commencement d'assassinat. On peut tuer quelqu'un avec de l'ironie. En fin de compte, ça travaille, un assassinat. Alors que l'humour, au contraire, ça sauve du vertige. Et de quel vertige il s'agit? Ce vertige qu'on se découvre, je suis. C'est tellement vertigineux que si on ne manie pas ça avec beaucoup d'humour, on tombe dans l'orgueil, etc. Et ça donne le vertige. Alors, les Juifs ont disposé de cette soupape d'échappement à la tragédie par la dimension de l'humour. Par exemple, un Juif a demandé à son ami où tu habites, il a donné son adresse. Alors, il a dit, c'est moins ça. Le Juif a répondu, c'est loin de nous. Bien, il n'y a pas d'autres questions? Rapidement.
Je pense même à un concept un peu mystérieux, vous nommez la méchanceté. Enfin, je ne veux pas parler de ça.
Pour ça, très simple. Je me découvre existant, je découvre quelqu'un d'autre à côté de moi, et puis alors il me gêne dans mon monde, je tends à le supprimer. C'est ça la méchanceté. C'est adhérer au fonctionnement des lois, comment dire, purement naturelles, de la rivalité des sujets, de l'agressivité, de l'affrontement, mais y adhérer en voulant cela. Et c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est vouloir faire du mal à quelqu'un. Mais qui s'allait faire du mal à quelqu'un? C'est avoir, prendre la tendance de l'allumer. Vous savez, être méchant. Être mauvais, ça veut dire que la tendance à l'agressivité fonctionne. Ça, c'est mauvais. Méchant, c'est adhérer à ça. La différence. Ça, rachat. Rachat, c'est non seulement j'ai l'instinct du mal, mais je veux ce que l'instinct du mal veut. C'est ça, c'est rachat. Alors, les gens méchants, il faut les rendre inoffensifs. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut les rendre inoffensifs. Ça se soigne, d'ailleurs aussi. Que ce soit avec beaucoup d'amour. Je ne crois pas que c'est une blague. Parce que très souvent, les gens méchants, c'est de l'amour frustré. Un jour, quand même. Bon. Et un jour, je vous parlerai du monde comme, ce monde-ci, comme machine à apprendre à aimer. Toutes les situations du monde, c'est une sorte de machine pour nous apprendre à aimer. Dès qu'on a appris à aimer, on devient un enduit. Qu'est-ce que vous voulez dire?
On peut dire que plus un sujet est grave, plus on doit faire de l'humour dessus. Est-ce que plus un sujet est grave, quand on parle de quelque chose, est-ce qu'on peut faire de l'humour dessus?
Hein?
Plus c'est grave,
Oui, mais vous laissez le professeur s'arranger avec ça. Parce que une affaire de spécialiste, je vous dis. Non, il est effectivement que quand les choses sont trop sérieuses, on ne peut les approcher qu'avec l'humour. Mais attention, si on ne sait pas faire fonctionner cela, ça tombe dans la grossière. Attention. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas pire que de mal traiter un sujet sérieux par de la grossière. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est dans mon article. Bien. Alors, en tout cas, finalement, on ne savait rien. On est revenu sur l'étude de la semaine dernière, surtout. Je voulais aborder un autre aspect du problème. Mais je vous ai déjà indiqué le thème. Mais ce que je voulais surtout vous rappeler, après tout, c'est nécessaire, parce que nous avons baigné, vous avez baigné, dans une atmosphère de scientisme occidental, disons de rationalisme élémentaire, primitif, et, qui fait que l'idée du déterminisme apparaissait comme contradictoire à l'idée de liberté. En réalité, dans l'atmosphère hébraïque, de la conscience hébraïque, c'est tout le contraire. La loi détermine, donne la sécurité de base du fonctionnement de la liberté. Là, je vous ai signalé d'ailleurs le dégagement de ce problème en pédagogie. Rappelez-vous quand vous serez jeune parent, faites bien attention à cela. Okay? C'est qu'il ne faut pas que le monde, que l'enfant ait l'impression d'être dans un monde arbitraire. Arbitraire, ça veut dire capricieux, sans aucune règle. Vous savez, ce qui a manqué aux enfants, et qui explique le heurt des générations depuis, puis on l'a fait le siècle dernier, mais ça se préparait avant, c'est que les enfants ne sont plus des enfants parce que les parents ne sont plus des parents. Et c'est pas facile d'être parent. Mais, si déjà vous devez être un jour, ce que je vous souhaite, mazal tov, eh bien, faites bien attention à ça. Il y a deux écueils à éviter. Très souvent, les enfants qui n'ont pas reçu de discipline de leurs parents imposent à leurs enfants une discipline exagérée. Ça, c'est une première chose. Même en tant que parent, il faut avoir l'humour. Parce qu'on nous sait juste comment les plus jeunes. Je veux dire, dans une société traditionnelle, les enfants se mariaient jeunes, donc étaient des jeunes parents. Mais c'était les grands-parents qui élevaient les enfants. S'il vous plaît. Les jeunes parents sont absolument incompétents pour ça. Ils sont trop jeunes, tout simplement. Pas assez d'expérience de la vie. Et puis ils sont trop près d'un compte à régler avec leurs propres parents. Alors le compte qu'ils avaient réglé avec leurs propres parents, ils le règlent avec leurs enfants. Vous avez compris le risque? Faites bien attention à ce risque d'exagération. Une discipline exagérée, c'est une fausse discipline. Et inversement, un laxisme, un permissisme, c'est encore plus grave d'ailleurs. Bon, les deux choses sont graves. Et ça affole les enfants, tout simplement. Et après, ce sont des enfants qui ont un compte à régler avec la société. Et alors, d'où la délinquance? Enfin, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Est-ce que c'est clair? Parce que, finalement, je ne sais pas, moi je vous donne un tout petit exemple. Vous aurez un enfant d'un an et demi, deux ans, après avoir été bébé. Bon, mais il n'aime pas les topinambours. Il n'aime pas les topinambours, donnez-lui autre chose. Si vous lui mettez les deux pieds là-dessous, c'est bon. Il ne peut pas savoir quand c'est bon. Vous la voulez. Est-ce qu'il sait que c'est pas vrai? J'attends que ma mère est folle. Alors, il a dit un gosse et une mère folle. En plus. Ah oui, alors, vous donnez quelque chose à un homme que vous préférez, tout simplement. Maintenant, si c'est un caprice, alors on va tout de suite, c'est un caprice. Alors, quand c'est un caprice, c'est qu'il a besoin d'une raclée parce qu'il faut qu'il dorme, il est trop excité, s'il n'a pas une raclée, il ne dort pas. Mais on donne une raclée tous les ans et encore. Quand, j'ai parlé de ça dans un autre cours, quand les parents donnent une raclée à leurs enfants plus d'une fois par an, c'est quelque chose qui ne va pas chez les parents. C'est nécessaire de temps en temps, mais vraiment rare. C'est comme la peine de mort, okay, pour reprendre le même. Une législation qui doit appliquer la peine de mort tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose qui tombe pas en. Il faut suspendre la peine de mort. Okay, c'est pas par amélioration morale, c'est au contraire par dégradation morale. C'est parce que le niveau des mœurs est tombé tellement bas qu'il faudrait appliquer la peine de mort tous les jours. C'est que cette loi ne vaut plus pour cette société-là, elle est tombée trop bas. Alors on lève la peine de mort. Ils ne méritent même pas ça. Okay. Donc, c'est la même chose pour les parents et les enfants. Si on doit, crier sur, comment on dit ça en français ?
Gronder
un enfant tous les jours, c'est quelque chose qui tombe par an. On gronde un enfant une fois par an, pas plus, normalement. Est-ce que c'est clair ?
Non,
même gronder. Non, je sais pas ce que j'ai dit, même gronder. Vous ne savez pas, parce que vous avez oublié quand j'étais en France, la panique qu'il y a dans l'âme d'un enfant quand on le gronde. La panique. Okay. Et alors, ça doit arriver de temps en temps. Parce qu'il a besoin de sa petite figure, sinon il n'est pas tranquille. Comment ? Il ne sait pas gronder, c'est pas un papa. Okay. Ça, il a besoin. Mais une fois de temps en temps, rare, quand c'est tous les jours, c'est le père qui est malade, ou la mère. Okay. Vous avez compris le problème ? Bon, c'est à peu près la même. C'est clair. Alors, je reviens à ce problème donc, de discipline. La liberté n'est assurée que par rapport à une loi qui n'a pas de droit, il n'y a pas de liberté. Avec une mentalité complètement différente de l'Occident. Est-ce que c'est
possible ? Mais si les grands-parents aident les enfants, comment être sûr que les grands-parents ne reproduiront pas les tards ?
Parce qu'entre-temps, ils ont grandi. Parce qu'entre-temps, ils ont compris. Et ça, leurs enfants ne le savent pas. Entre-temps, ils ont compris. Vous voyez, vous continuez à faire comme s'ils n'avaient pas compris. Et d'où d'ailleurs la nature très spéciale de l'affection qu'il y a entre les petits-enfants et les grands-parents. Parce qu'ils y reconnaissent leurs vrais parents quant à l'éducation. Et que c'est que le problème. Alors bien sûr, papa gâteau, le gâtisme, ça c'est l'exagération. Il ne faut pas non plus exagérer en vrai. C'est ça le problème. Vous voyez que les enfants se sentent en sécurité vis-à-vis des grands-parents, parce qu'ils savent très bien que le grand-père va lui dire quand c'est mal que c'est mal, et quand c'est bien que c'est bien. Avec une gentillesse telle que ça passe. Alors que le jeune parent, surtout, se prend des airs d'adjudant, et puis ça fonctionne comme ça. Alors méfiez-vous de cela. Quand j'étais stupéfait, quand j'étais jeune parent en France, il y avait dans les librairies des livres de puérilles, quoi, culture. Et ça changeait tous les 6 mois. Il y avait même des mots. Et alors, ah bon, alors on entendait les dialogues avec les voisins, les cousins et les Indiens. Ah, tu sais, ça se fait plus de donner à l'enfant ça, il faut changer la mode à changer. Complètement ignorant de quoi il s'agit. Et on fait des expériences avec les gosses. Il en est sorti la génération 68. C'est-à-dire la révolte contre la société. Est-ce que c'est clair ? Bon, je pense que... Enfin, je me rappelle. Quand ma femme a amené les enfants chez le médecin pour leur régime, etc. Alors, avec un air très grave, et bien sûr, on lui donne les gens. Bon. Alors, ma femme qui devient affolée, imaginez, j'ai une mère de famille qui est comme ça, c'est la guerre. Tu te rends compte ce qu'il devient médecin ? Il faut vraiment, comment on va faire ? Tu crois que moi, j'ai mangé ça ? Donne-lui de la jambe fumée, depuis qu'elle flèche, regarde-moi. Il m'a dit, tu crois, il va demander au médecin. Alors, je vais chez le médecin. Et je lui dis, vous savez, nous sommes juifs, j'ai un problème. Ça, on ne peut pas. Est-ce qu'on ne peut pas changer avec la jambe fumée ? Il m'a dit, bien sûr. Et il lui a dit, bien sûr. Alors, vous avez des juifs paniqués, le médecin a dit que. Et alors, ils mangent Oui, c'est le problème. C'est la mode. Il faut donner à vos enfants, etc. Vous avez compris quand même. Alors, voilà, voilà l'histoire. Après, il y a toute ma mise. Là, je vais regarder. Il y a une bonne là, bon, j'y vais. La conscience magique, le médecin a dit que. Bien.
Dans 6 mois, mais en 1 an, 2 ans, c'est normal que ça change quand même, parce qu'il y a quand même une évolution qui fait que.
Pendant des milliers d'années, les bébés ont été nourris au sein. Subitement, on découvre qu'on ne peut plus les nourrir au sein. La vraie raison, c'est que les femmes n'ont plus de lait. C'est un autre problème. Et les femmes n'ont plus de lait parce que le pain qu'elles mangent, c'est plus du pain naturel. Alors elles n'ont plus de lait. Enfin, je schématise. Okay. Mais alors, on va venir nous dire, il y a une évolution. On nourrit plus les enfants au sein. Ça va pas. Des modes dans une histoire pareille. Vous comprenez pas. Et je vous garantis qu'il y a énormément de mères de famille qui aujourd'hui découvrent, si elles pouvaient avoir voulu. Et vraiment, on vit une vie tellement artificielle que les femmes ont plus de lait. Est-ce que vous avez remarqué cela? Les femmes ont plus de lait. C'est une catastrophe pour l'humanité. L'humanité aussi, en fait.
Parce que vous croyez que les femmes ont plus de lait parce qu'il n'y a plus de pain complet.
Je n'ai pas dit pain complet. J'ai dit l'ensemble de la nourriture est tellement tordue que les femmes ont plus de lait. C'est pas
Ah,
vous savez, la diététique à laquelle je pense peut-être, ou c'est à laquelle je pense en tout temps, une fausse science. Ben, c'est, disons, la vraie diététique, c'est pas vraiment bien. Et puis, je vous dire une chose, moi j'ai encore connu un temps avant la guerre mondiale où les aliments avaient un tout autre goût. Je sais qu'il y a d'autres facteurs qui atténuent le goût, par exemple la cigarette. Je suis au courant, au courant alternatif. Mais je me rappelle du goût des aliments. Les aliments ont perdu leur goût. Et donc il se passe quelque chose, c'est les engrais. Et oui, et c'est les fumées d'usine, et c'est la manière dont cette civilisation fonctionne. Alors elle s'est artificialisée, dénaturée. Alors imaginez. Un bébé, un petit homme, qui lui naît apparemment normal, il a déjà une hérédité chargée parce que, bon, à cause de ça, il a des besoins pour fonctionner normalement. Et si ces besoins ne lui sont pas satisfaits, ils ne fonctionnent pas normalement, et vous avez tous ces adolescents à conscience malheureuse. Et si je vous dis des choses aussi énormes, vous allez me dire que c'est la mystique. Un enfant qui a têté du lait de vache en boîte concentrée et pas le lait de sa mère, eh bien, ça peut faire un délinquant. L'idée que dans l'éducation des enfants, il puisse y avoir des modes, et ça change tous les 6 mois, c'est qu'on n'a pas de science. Avec quoi, oui, qu'on n'a pas de science, et on demande aux grands-mères, comment vous vivez-vous? Et on redécouvre que c'est comme ça qu'il faut faire. Et chacun sa grand-mère, parce que. Chaque société, c'est telle société, c'est pas une autre.
Le fait qu'en Israël, on reproduit exactement cette même société,
c'est un stade donné. Nous sommes au stade de rassemblement des Juifs. Et les Juifs arrivent avec tout leur passé. Et en même temps, bon, on a la guerre à l'extérieur, on a pas tout le tout à la fois, on a toujours un problème. 30 ans, c'est 3700 ans d'histoire, 30 ans, c'est une seconde. Nous sommes au stade de rassemblement dans la matrice, dans le creuset. Okay. Mais l'être hébreu qui se prépare n'aura rien à voir avec tout ça. Et il faut se débarrasser de la galoupe. Bon, on va s'arrêter là. Et il y a des gens qui râlent parce qu'ils ne veulent pas se débarrasser de la galoupe. C'est ça. Et je vous rappelle, pour terminer, ce que vous entendrez souvent passer, ce n'est pas simplement une formule. Et ça a été enseigné par le Rav Ziel, dans le Racham, qui est un des premiers Rishon LeZion. C'était le Rishon LeZion en tant que le Rav Kook, et le Rishon LeZion, le Père. Okay? Rishon LeZion, le paradis, et Rishon LeZion. Il a enseigné ça de façon très claire. Nous attendons deux Mashiach, deux Messie. Le Mashiach Ben Yosef, qui doit sortir des Juifs de la galoute, et le Mashiach Ben David, qui doit sortir de la galoute des Juifs. Ça, c'est le deuxième étape. Ça partira avec. Pas seulement, c'est ici que ça se passe. C'est pas. À Brooklyn, moi, je suis. Il ne marche pas sur l'autre. Oui, c'est vrai. Bien. Alors, excellent, Kadosh. Ah oui, seuls les élèves de la promotion restent 5 minutes. Que dire ? Oui, c'est pas la peine de casser pour 5 minutes.
Comment est-ce que
tu es ? Bien, Zéra Machmaï. Voilà, je voulais dire deux choses. La première, je vous rappelle, si vous avez déjà dit, que tous les jours soir à 8h, il y aura un cours qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, plusieurs plus un cours de Taramim de la Torah et Bartara. Alors, je vous rappelle, ceux qui veulent y assister, ça commencera ce soir. Malheureusement, je ne pouvais pas être là pour vous présenter ce rabbin. Nous sommes amis en France. Pratiquement, lui, il est à Constantinople, mais on s'est rencontrés à la fin. Et c'est un homme vraiment très très gentil, charmant, et il vous apprendra ce que vous voulez apprendre, le rythme que vous voulez apprendre, même s'il ne le connaît pas, il va l'apprendre pour vous l'apprendre. Okay. Ce que je vous conseille, c'est bon, d'apprendre un rythme de base qui sera le sien, surtout, c'est pas grave, c'est celui qui chante le mieux, qui lui est le plus naturel, donc vous apprendrez à l'algérienne tranquillement, et puis de lui demander chacun son rythme d'origine. Est-ce que c'est clair ? Parce que ça, j'y tiens absolument que vous retrouviez chacun vos racines. Bon, pour Monica et Dana, okay. La halakha à Jérusalem, c'est que les convertis à Jérusalem sont de l'Israël. Alors, tous, quelle que soit leur origine, même les pays européens, ou même les Scandinaves. C'est la halakha qui est l'autre. En principe, d'ailleurs, c'est pour tout l'Israël, mais elle a déjà codifié pour le Jérusalem. Parce que le rite du pays, pendant toute la galoute, était le rite Sfarad. Et vous rappelez pourquoi ? Puisque le rite Sfarad et le rite du Beit Sheni, vous rappelez ? Pour ceux qui étaient restés dans le pays, étaient membres du rite du Beit Sheni, c'est-à-dire les 10 Sfarad.
Mais pourquoi ça s'est officialisé juste ? Oui.
Il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Que tant que la question ne devient pas urgente, alors, on laisse les choses, parce que nous sommes en état de transition, nous sortons de la galoute, nous avions eu un cheval dans la galoute, pour retrouver le cheval à l'eau des Hébreux, il faudra du temps, il y a beaucoup de problèmes. Et vos petits-enfants auront des surprises, le cheval à l'eau de l'avenir sera très différent sur beaucoup de points de ce qu'il était dans la galoute. Mais il faut du temps pour... Or, l'habitude était que chacun, pour les convertis, chacun prenait le rite de son maître. Et on laissait faire ça, comme ça. Et puis, ça peut se défendre tant que les rites vont se perpétuer jusqu'au moment où il y aura un rite unifié. Mais comme il y a eu, depuis quelque temps, énormément de candidats à la conversion qui ont demandé officiellement qu'on donne la halakha de quel rite ils doivent choisir, alors on a été obligé de donner la halakha comme elle est. Et la halakha comme elle est, c'est que c'est le rite sfarad. Ouais, c'est clair. Bon, alors pour me faire plaisir, c'est pas pour me faire plaisir de dire que c'est le rite sfarad. C'est pas pour me faire plaisir, mais pour me faire plaisir, je vais prendre le rite de la maison. Et pas prendre le rite Babi, le rite Gemeni, le rite. Prendre le rite qu'on apprend. Et par exemple, si on devait unifier les rites, ben c'est un rite très spécial, qui est le rite des Sfaradim kabbalistes, très précis, qui devrait être donné à toutes les communautés. C'est pas pour demain. Quand le temps viendra où on unifiera le rite, au moment, chacun garde le rite de sa famille. C'est clair. Okay. Et je vous dis, il y a d'autres raisons. C'est que ce sont des racines profondes avec lesquelles on ne joue pas. Même si ça a été interrompu pendant 3-4 générations. C'est ça que l'on fait pour autre chose de ce point de vue-là. Vous avez compris le problème. Donc chacun retrouve son rituel. Okay.
Je croyais qu'à l'heure actuelle, un rite israélien en vigueur dans beaucoup de synagogues.
C'est une blague. Mmh. C'est un rite unifié entre mitnagdim et racine. C'est-à-dire c'est un rite unique pour les Ashkenazim. Ce n'est pas un rite de tout Israël. C'est ce qu'on appelle le Sarafim. Okay. C'est un rite entre Hasidim et Mitnagdim. Mais un Sfaradim ne se connaît pas du tout là-dedans.
C'est
pas une rite la plus forte.
C'est le rite du père qu'on apprend.
Le rite de son père, oui. On est juif par la mère et la tribu, c'est le père. Bien. Bon, voilà ce que je dis. C'est la première chose. Okay. Alors, je sais bien que vous êtes fatigué, mais enfin, c'est pas vraiment fatigant. Alors, le cours commence à 8h, il sera dans le BTS. Deuxièmement, oui, j'arrive tout de suite. Je vais faire une phrase. Je n'ai pas à me répéter ce que je dis pour les activités, ça vaut pour toutes les activités au cours de champ de contrôle. Ok ? Vous avez besoin de quelque chose. Je ne veux pas que la professeure vienne me dire encore qu'il y a des gens qui fumistent. Maintenant, s'il y a un problème avec le cours de champ, on va s'en réunir pour moi avec moi, mais pas du point de vue du programme. C'est vrai que c'est aussi important que le cours de programme. Donc, alors, en principe, Yosef Matoudi sera là. Shabbat. Vendredi soir, il continuera peut-être l'exposé sur pourri. Et si tout va bien, je viendrai dans la journée prier avec vous et en étudiant.